Cette année, il y a trois dossiers qui sont particulièrement importants. Le premier, c'est, on mettrait un point d'aboutissement à cette réflexion, c'est la question du ministère des prêtres aujourd'hui, équilibre de vie et relations aux communautés chrétiennes. On se rend bien compte que les prêtres aujourd'hui sont très chargés, on ne pourra pas rajouter d'autres responsabilités ou d'étendre géographiquement leurs responsabilités à l'infini. Et donc se pose la question, à la fois non seulement de leur équilibre humain, spirituel, intellectuel aussi, pour investir aussi dans la réflexion, mais de leur équilibre apostolique. Et donc ça suppose de voir, en particulier avec eux, comment voir cet équilibre, comment voir aujourd'hui leur vie de prêtre. Ça implique bien évidemment que on puisse resituer ça au cœur même des communautés chrétiennes. C'est-à-dire comment les communautés chrétiennes, avec le prêtre qui est souvent le pasteur, le responsable, vont s'organiser. Alors ça se fait, mais je crois qu'il faut sans doute que nous allions un petit peu plus loin pour, de fait, se prendre en charge aujourd'hui d'une façon renouvelée. Le deuxième dossier est un peu lié au premier, c'est la formation des futurs prêtres, la formation des séminaristes. C'est vrai que pour nous, il y a un effort concernant les vocations presbytérales et qui est à poursuivre. Et en même temps, notre préoccupation, c'est comment aujourd'hui nous pouvons accueillir les jeunes tels qu'ils sont, parce qu'ils ne viennent pas d'une autre planète que tous les jeunes que l'on côtoie dans notre société. Et en même temps, comment ces jeunes tels qu'ils sont vont pouvoir être les prêtres d'aujourd'hui et des années qui viennent. On n'est pas dans la situation de l'Église de France il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est une situation qui est beaucoup plus une situation de plein vent aujourd'hui, avec une assise qui est peut-être moins forte sociologiquement qu'est-ce qu'elle a été. Et donc aussi comment ces jeunes prêtres peuvent être soutenus comme pasteurs et en même temps comme apôtres. Et puis le troisième dossier, c'est celui sur les relations entre catholiques et musulmans. Il s'agit d'une approche pratique. Bien sûr que les questions théoriques, les relations entre islam et christianisme ne sont pas oubliées, mais nous voudrions davantage aborder les questions sur aujourd'hui des musulmans sont présents dans notre société, ils s'organisent, ils ont des instances, ils expriment des besoins de construction, de mosquées, de grandes mosquées, ils se marient aussi avec, par exemple, des catholiques. Comment nous-mêmes nous nous situons par rapport à ça? Quelles sont les questions que cela nous pose? À la fois, quelle fraternité, quelle lucidité aussi dans nos échanges. Nous ne voudrions pas non plus éviter une question qui est une question importante, même si c'est, on peut dire, une question un peu chaude aujourd'hui. Nous sommes dans une société pluraliste où il y a des conversions. Conversion de catholiques à l'islam et aussi conversion de musulmans au christianisme. Et donc, c'est vrai que chacune des religions ne voit pas très bien, évidemment, d'un bon œil, ces conversions-là, mais quel est le respect de la liberté de la démarche de chacun? Comment est-ce possible? Comment on peut reprendre cette question-là avec les musulmans? Et puis, en particulier, par rapport à ceux qui viennent de l'islam, ou de familles au moins sociologiquement musulmanes, quel type aussi de parcours de foi peut être proposé dans le cadre du catéchuménat? Voilà un certain nombre donc de questions qui vont être au cœur de notre assemblée.
Votre façon de présenter la question du ministère des prêtres est relativement positive. Est-ce que la France échappe à la crise des vocations?
Nous ne sommes pas des autruches qui mettons justement notre tête dans le sable pour pas voir la situation. C'est vrai que la question des vocations aujourd'hui est sérieuse par rapport au ministère de prêtres diocésains. Le nombre de prêtres de fait dans ce secteur-là diminue avec un certain vieillissement, même s'il y a des jeunes qui se présentent au séminaire. Nous ne sommes pas en situation de totale pénurie. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Alors, nous nous questionnerons aussi. Aujourd'hui, devant cela, il y a des communautés nouvelles qui ont davantage de vocations. On peut se poser la question, est-ce que ça correspond davantage à des aspirations pour les jeunes aujourd'hui? Est-ce que des jeunes aujourd'hui voient le prêtre comme un peu un homme seul, surchargé, et redoutent de se trouver dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre façon de vivre en presbytérium, c'est-à-dire avec l'ensemble des prêtres, entre prêtres, entre prêtres et laïcs, quel soutien communautaire. Je crois que toutes ces questions-là seront bien au cœur aussi de nos échanges et de nos réflexions.
L'Assemblée plénière marque aussi la fin d'une année. Qu'est-ce que vous, vous retiendrez des grands dossiers qui ont marqué l'Église pendant cette année 2007 ?
Moi, je crois que pendant cette année 2007, d'abord, nous avons poursuivi un peu notre travail sur ces grands dossiers, c'est-à-dire nous ne sommes pas tributaires des années, dans la mesure où nous travaillons des sujets importants, comme ce dont je viens de parler, souvent sur 2 ou 3 années. Puis après, vous avez aussi l'actualité. Je crois que l'actualité, il y a eu cette année pour nous à la fois l'élection présidentielle, les élections législatives, avec toute la réflexion que ça nous a amené aussi sur l'investissement des chrétiens dans le politique, sur les valeurs qui étaient à promouvoir dans notre société. Je crois que là, il y a, me semble-t-il aussi, eu toute une réflexion à partir du document que nous avions publié, notre déclaration « Qu'as-tu fait de ton frère ?». Il y a eu aussi, sur un plan social et politique, la question de l'immigration, qui est une question de fond. Nous nous sommes exprimés récemment, mais au-delà de ces prises de position, sur des lois qui se multiplient sur le sujet, puisqu'on annonce sans doute qu'il y aura sans doute une autre loi l'année prochaine, nous tirons la sonnette d'alarme pour dire « attention, nous sommes vraiment dans un monde à 2 vitesses, avec des économies performantes ». Et puis des pays qui sont à la traîne et qui ne s'en sortent pas. Je crois qu'on ne pourra pas fonctionner comme ça longuement. Et donc, si on veut toucher aux vraies causes de l'immigration, qu'elle soit choisie ou qu'elle soit subie, c'est bien ces questions-là qu'il faudra traiter. Bon, il y a eu aussi l'actualité internationale. Récemment aussi, quand même, ce qui s'est passé en Birmanie nous a surpris. J'ai écrit moi-même une lettre pour alerter sur la défense des droits de l'homme à l'ambassadeur de Birmanie, qui était un peu surpris, l'a fait dire par l'un ou l'autre de ses attachés, en disant « Mais il y a très peu de catholiques en Birmanie, pourquoi vous vous en préoccupez ?» Et on a dit « Mais ce n'est pas des catholiques que nous nous préoccupons, j'allais dire c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des moines. Ce dont il s'agit, c'est le respect des droits de l'homme, c'est ce que vivent les hommes. » Je crois que l'Église n'est pas étrangère à ce qui fait la vie des hommes. Elle ne se replie pas sur son pré carré pour défendre uniquement ses intérêts, mais elle n'oublie pas qu'avec le Christ, elle est au service aussi de tout homme.
Il y aura eu aussi comme événements qui ont marqué cette année 2007, le motu proprio qui a fait beaucoup de bruit, particulièrement en France. Vous, quelle est votre approche, une fois la tempête passée, de la mise en application de ce décret du pape ?
Je crois qu'il y a eu beaucoup plus d'appréhension avant le motu proprio qu'au moment où, après sa parution, était très générateur d'angoisse pour se dire « Mais où allons-nous ? Quelle direction pour l'Église ?» Or, je crois que la lettre que le pape a écrite accompagnant le motu proprio a permis, disons, de l'accueillir, de le recevoir, de le situer comme à la fois une possibilité de célébrer dans ce qui a fait véritablement la richesse de la prière de l'Église. Et on sent que le pape Benoît XVI a souhaité que cette forme-là ne disparaisse pas, ne soit pas perdue ou laissée au musée. Et en même temps qu'on ne revenait pas au passé et on ne traçait pas un trait sur ce qui a été les grandes intuitions de la réforme conciliaire en matière de liturgie. Je crois que le pape a bien présenté les affaires là. Il a présenté ça comme un chemin de réconciliation. Ça a permis, me semble-t-il, aux chrétiens traditionalistes de se sentir mieux reconnus comme ayant leur place dans l'Église. Les évêques français, souvent avec leur presbytérium, ont essayé de voir comment dans les diocèses on pouvait répondre positivement aux demandes qui nous seraient faites. Pas forcément dans toutes les paroisses, parce que nous n'en avons pas les moyens, ni en prêtres, ni en formation de ces prêtres, mais au moins dans un certain nombre d'endroits dans les diocèses. C'est une attitude positive pour répondre, en fonction de notre situation pratique, au motu proprio. Bon, ceci dit, n'y a pas eu énormément de demandes encore, elles peuvent arriver. Mais j'ai l'impression que sur ce point-là, je veux dire, les crispations qu'on pouvait craindre ne se manifestent pas.
Cette assemblée plénière va également marquer la fin de votre mandat de président de la Conférence des évêques de France. Quel est votre regard sur le bilan que vous laissez à l'Église de France aujourd'hui ?
Moi, je crois qu'elle se porte pas si mal que ça. C'est vrai que nous sommes dans une situation contrastée. Les choses ne sont pas toujours faciles. Nous sommes confrontés à un mouvement de sécularisation, c'est-à-dire d'éloignement d'une partie de notre société par rapport à l'Église, par rapport à la foi même chrétienne. Mais je sens que, parallèlement à ce mouvement, je veux dire, d'écart, il y a d'autres signes qui manifestent une réelle vitalité de notre Église. Je le vois par exemple à travers l'investissement des laïcs dans la prise en charge de la vie de l'Église, dans le besoin de formation, dans la recherche aussi d'accompagnement spirituel. Je pense aussi dans une volonté se manifester plus nettement comme chrétien, comme ayant une offre aussi à faire dans une dynamique d'évangélisation. Je pense à ce qu'a été Toussaint 2006 à Paris. Vous avez là aussi un certain nombre de chrétiens, on en parle rarement, mais qui sont très engagés dans la vie associative, en particulier dans une dimension caritative, dimension de solidarité. Je crois que tout cela manifeste aussi une vitalité des chrétiens. Et donc, pour moi, à la fin donc de ce mandat de 6 ans, ça a été un mandat de 3 ans qui a été renouvelé une fois, puisque au bout de 6 ans, nous laissons nos responsabilités, eh bien, j'aurais envie de dire à la fois confiance, mais n'ayons pas peur aussi à la fois de creuser ce qui fait véritablement notre foi et puis de le partager plus ouvertement encore, peut-être que nous l'avons fait, à tous ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui cette parole forte de l'Évangile.